Bonjour.
Ah, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir.
C'est l'heure du Canu Info.
Les Canu Info.
Canu Info.
Du mercredi.
Bonsoir. Ah, c'était le seul micro qui n'était pas allumé, c'était le tien.
Ah, ça y est. Oh oui, ça y est, je m'entends même avec un peu d'écho. Bonsoir.
Bonsoir. C'est mercredi. Combien de juin, hein? Mercredi 10 juin. C'est l'heure du Canu Info, il est 19h04.
Et ce soir, aux États-Unis, plusieurs petites villes pro-Trump organisent des manifestations en mémoire de George Floyd.
Ensuite, on ira en France où le gouvernement ne peut plus se taire, mais il fait tout pour ne rien dire. Alors ça, c'était titre, ils sont à rallonge, on comprend rien, vous verrez.
Bah, si, en fait, si c'est dit bien, on comprend, mais c'est pas grave. Déconfinement au Mexique.
15 milliards d'euros pour soutenir l'aéronautique française.
Des nouvelles des frontières extérieures de l'Europe.
Et ensuite, le Burundi, on ira au Burundi, quoi.
Ouais, il y en a qui n'ont pas envie de prononcer des noms compliqués.
Exactement.
Bon, Pierre Nkurunziza est mort, sachez-le. Merci. Et que son âme pourrisse en enfer, c'était ça mon titre.
Ah. Et donc, on va commencer par une petite brève concernant... Alors, vous êtes bien en 2020 et on va bien parler de Ségolène Royal. Ah, c'est bien, mais non, vous n'avez pas
parlé de Ségolène Royal. A-t-elle l'ambition d'être candidate à la prochaine élection présidentielle en 2022? Eh bien, interrogé sur ce sujet par Jean-Jacques Bourdin, ce mercredi sur BFM, l'ancienne ministre a répondu à demi-mot que la décision serait collective et non personnelle. En tout cas, elle laisse donc complètement la porte ouverte. Alors écoutez, entre Royal et Bigard, qui n'a pas non plus exclu sa candidature quand on lui a posé la question la semaine dernière, mon cœur à moi balance. En tout cas, on a l'impression que, comme tout le monde sait que ça risque d'être n'importe quoi plutôt que Macron, tout le monde se dit quelque chose comme « Tiens, moi, je suis, je pense, je dis et je fais justement n'importe quoi. C'est mon moment !» Mais alors, pensez au monde d'après 2022, c'est peut-être le seul moyen de trouver des bons côtés au monde de 2020.
Canu Info. Du mercredi.
Le conseil municipal de Minneapolis a annoncé dimanche qu'il allait démanteler ses services de police. Le budget dédié à la police sera graduellement redirigé vers d'autres organisations et un nouveau système permettant d'assurer la sécurité des habitants sera mis en place. Un élu explique, je cite, « Nous allons démanteler la police de Minneapolis et quand nous en aurons fini, nous ne la reconstituerons pas. Nous allons drastiquement repenser notre approche de la sécurité publique. » En attendant un démantèlement qui ressemble surtout à un coup de peinture et de com' pour calmer les esprits, à quoi ressemble actuellement cette police de Minneapolis? Une étude de Reuters sur les plaintes déposées contre des policiers de la ville au cours des 8 dernières années montre que 9 accusations de faute sur 10 n'ont conduit à aucune inculpation ni intervention visant à changer le comportement d'un officier. L'analyse couvre environ 3000 plaintes au cours de cette période et parmi tous les officiers en cause, seuls 5 ont été licenciés. C'est donc une quasi-impunité assurée par l'institution, car même en cas de comparution, l'affaire aboutit souvent à un non-lieu. On comprend mieux le calme dont peut faire preuve le policier Derek Chauvin pendant qu'il asphyxie George Floyd sous la pression de son genou. Reuters nous apprend qu'une telle impunité est négociée en bonne et due forme dans le contrat de travail que signe le syndicat policier avec l'employeur, la municipalité. Celle-ci s'engage dans ce contrat à ne pas donner suite aux éventuelles plaintes que les citoyens leur formuleraient concernant la conduite de leur police. La ville de Minneapolis se solidarise ainsi complètement avec le comportement policier et le seul recours des habitants pour se faire entendre est la justice. Mais ce n'est pas une particularité propre à Minneapolis. Une douzaine de contrats négociés avec des syndicats policiers contiennent des dispositions pour entraver toute tentative de rendre un policier responsable de violence ou d'abus. Sur les contrats de 82 villes qu'a examiné Reuters, 46 mentionnent que les données disciplinaires doivent être effacées. Dans ce contexte, il est d'autant plus difficile de mettre à pied un policier régulièrement violent ou raciste. Donc selon le rapport de force qu'entretient le syndicat policier local et selon comment la municipalité a besoin de se faire voir positivement, l'immunité des policiers peut être énorme. Y compris quand l'affaire est portée en justice, les policiers jouissent d'une immunité qualifiée, un cadre juridique qui les empêche d'être poursuivis pour des actions qui leur sont imputées dans l'exercice de leurs fonctions. C'est le cas partout aux États-Unis.
Radio Canu 102.2.
La plus rebelle des radios.
Canu Info. Et on va rester aux États-Unis pour cette info.
Norwood, dans le Colorado, est une petite ville de ranch de 550 habitants, majoritairement blancs, ayant majoritairement voté Trump aux dernières élections présidentielles. Pourtant, contre toute attente, une manifestation a été organisée en mémoire à George Floyd, noir américain tué par la police lors de son interpellation le 25 mai dernier. La journaliste du Washington Post qui relaie cette information, Jody Mueller, est aussi habitante de Norwood. Elle rappelle le contexte d'un terreau qui n'est pas particulièrement sensible au racisme systémique. BLM, c'est avant tout le sigle du Bureau of Land Management et non de Black Lives Matter. Alors que la ville est comme à son habitude une spectatrice rurale des émeutes urbaines, comme le raconte Jody Mueller, le club de lecture de la ville invitait les habitants mercredi dernier à rejoindre une marche au coucher du soleil, puis une veillée aux chandelles à la bibliothèque pour, je cite, faire savoir à la famille de George Floyd et à l'ensemble des États-Unis que Norwood est à l'écoute. Si la forme est modeste et consensuelle, l'accent est mis sur la famille de la victime, les violences policières racistes ne sont pas dénoncées en tant que telles, c'est tout de même chargé de sens que de faire entendre sa voix de concert avec les manifestations énormes de Minneapolis et ailleurs. Certes, sans cesser de soutenir la police, les organisatrices affirment qu'elles ont compris que la mort de George Floyd était brutale et tragique, et soutiennent dans le même mouvement Black Lives Matter. Environ 40 personnes sont venues, ce qui n'est pas rien pour une si petite ville où la pluie menaçait. Pour la municipalité républicaine, rien de politique, mais une volonté de soutien et de justice. L'une des personnes venues à la veillée raconte ne pas vouloir rester isolée de tels mouvements aussi importants. Cette initiative du club de lecture n'est pas un hasard. Les membres venaient de lire un essai portant sur la façon dont les Blancs peuvent rejoindre la lutte contre le racisme. Norwood n'est pas un cas isolé et plusieurs petites localités d'États républicains, comme dans le Dakota du Nord, le Tennessee ou l'Oklahoma, ont organisé des manifestations. Pas sûr que ce soit le signe évident de leur rejet de Trump pour les prochaines élections, mais c'est tout de même une agréable surprise.
Radio Canu. Canu Info. Du mercredi.
Et on arrive en France.
Et oui, en France aussi, il se passe des trucs. Alors moi, j'habite à la Cambrousse et du coup, je loupe pas mal de manifs, mais j'étais à celle de samedi dernier, samedi après, à Lyon. Je vais pas faire un compte-rendu précis, hein, c'était déjà il y a 4 ou 5 jours. Et puis de toute façon, vous aviez qu'à être là. Juste en résumé, c'était quand même une sorte de moment un peu magique. Un monde incroyable. Alors je sais pas combien, la préfecture dit 5000, Rebellion dit 12000. Ce qui est important, c'est que pour une manif qui était officiellement consacrée à George Floyd, même si on voulait croire le chiffre de la préf, c'était déjà énormément plus que ce qu'on pensait avant d'y aller. Des gens particulièrement jeunes, plein de monde qui faisait visiblement sa première manif, une énergie folle, je veux dire le nombre de gens qui ont dû pas pouvoir se servir de leur voix pendant quelques jours après, un truc de dingue, et une émotion qui a serré la poitrine de plusieurs de mes potes qui y étaient et qui me l'ont dit. Depuis une grosse semaine, des manifs comme ça, il y en a tous les jours un peu partout en France. George Floyd et Adama Traoré mis dans un même sac, avec aussi d'autres noms. On a quand même, alors on a des listes hein, pour la France, des Noirs, des Rebeux, des Gitans, et même parfois, des Français blancs, tués, éborgnés, passés à tabac après avoir été menottés. Et après toutes ces années de toute puissance policière en France, à l'occasion d'un meurtre aux États-Unis, on se réveille et on a la pêche et la rage. Le fait que ça soit un mouvement mondial, ça aussi, ça, c'est un truc qui nous aide et qui nous soutient. Depuis une semaine aussi, tous les jours, il y a une info, un article, un fait divers qui vient confirmer tout ce qu'on sait de la police, de son impunité, de son racisme, de ses violences, souvent gratuites. Alors quoi, on se rappelle de la semaine dernière, hein, c'est ça, le groupe WhatsApp des flics suprémacistes découverts par Mediapart, le groupe Facebook des flics qui s'échangent des blagues racistes et qui rigolent sans fin sur les personnes tuées ou mutilées par d'autres flics, ce truc-là dévoilé par Street Press. Le deuxième groupe Facebook de flics, lui aussi dévoilé par Street Press, qui trouve que les blagues du premier groupe sont quand même finalement, bah, c'est de l'humour, c'est pas du racisme. En fait, en lisant les extraits de ces groupes Facebook, ce qui impressionne le plus, c'est même pas tellement le racisme qui est tellement impressionnant, c'est cette espèce de haine immense, de haine pure de ces flics. Et donc 8000 membres sur le premier groupe Facebook, 9000 sur le deuxième groupe, et cette haine qu'ils ont contre les pauvres, contre les non-blancs, contre les banlieusardes, contre toute cette population qui est automatiquement suspecte. Un nouvel article, toujours de Street Press, a été publié aujourd'hui, où on peut lire les, du coup, qu'ils ont trouvé sur le deuxième site dont ils parlent, ils ont trouvé les réactions des flics aux deux articles précédents. Et ça donne des posts comme, alors attendez, pour bien comprendre, il faut savoir que dans l'article juste avant celui-là, on voyait des captures d'écran où, pour commenter la photo d'un coin de Paris où il y avait des blacks, un flic faisait remarquer finement « c'est noir de monde ». Et un autre répondait non moins finement « non, c'est noir de merde ». Et donc là, les flics qui commentent le fait que Street Press ait fait un article là-dessus en disant que c'est raciste, et ben ces flics-là disent « putain de journaleux de mes couilles, qui ne connaît pas l'expression « noir de monde », donc il faut l'interdire du langage comme radin, comme juif, comme radin comme un juif, c'est ça ?»
Ah ouais.
Ouais. Et un autre qui répond « du coup, gras comme un porc, ça atteint leur religion aussi ?» C'est ça l'ambiance globale de ces sites qui compte donc 17 000 membres des forces de l'ordre. C'est-à-dire que quand Castaner dit c'est pas systémique, là, en tout cas, ça systémique ou pas, ce qui est clair, c'est que c'est sacrément répandu. Alors la semaine dernière, on vous parlait aussi de ce gamin à Bondy dans le 93, 14 ans, qui s'était fait arrêter, démonter la tête à coups de pied une fois allongé par terre et menotté, qui avait perdu 3 dents et dont l'œil, alors qu'il n'est pas encore certainement sauvé. Bon, devant tout ça, le gouvernement se demande bien quoi faire. Encore une fois, une vague de mécontentement populaire vient créer de l'agitation contre le gouvernement. Mais encore une fois, il n'est pas question pour Macron et sa bande de remettre quoi que ce soit en cause sérieusement. Alors, cette fois-ci, pour une très bonne raison, c'est que tout ce que veut Macron, toutes ses intentions, toutes ses réformes, tous ses plans, c'est des trucs qui sont pourris pour la plus grosse partie de la population. Et donc, il doit bien compter sur les flics pour toujours faire une barrière efficace entre ces sales mesures et le mécontentement populaire. Alors, en même temps, là, le mécontentement populaire, bah, il est quand même vraiment un peu directement dirigé contre les flics. Et du coup, la tactique du gouvernement et de Macron, alors, la tactique globale, c'est que Macron, lui, ne dit rien du tout et il envoie les autres au carton.
Stratégie qu'il applique depuis le début de son mandat.
Stratégie dans laquelle il est pas mal balèze, effectivement. Alors, Nicole Belloubet, la garde des Sceaux, et ben Macron lui a demandé de recevoir la famille de Adama Traoré. Manque de bol, la famille est plus maligne que ça et elle a tout bonnement refusé d'y aller. C'est pas les honneurs d'une entrevue avec une ministre que veulent Assa Traoré et sa bande, c'est la justice. Bon alors ça, Macron, ça lui passe loin au-dessus de la tête. C'est la condamnation des flics qui ont tué Adama. Et leur avocat en a profité pour rappeler que l'exécutif, c'est-à-dire les ministres, n'ont constitutionnellement juste pas le droit de se mêler des affaires judiciaires, de celle-là pas plus que d'une autre. C'est comme quand Macron veut donner des médailles aux soignants et aux soignantes, finalement. Il s'imagine toujours que les pauvres seront toujours fascinés par ce qui brille, par les marques, bon, vides, d'une sorte d'estime de la part des plus puissants. Mais manque de bol pour lui, les pauvres sont souvent, finalement, bien plus malines et malins que ce que lui croit. Alors, Castaner a dû y aller aussi, le pauvre. Après nous avoir répété comme un disque rayé depuis le début du quinquennat qu'il n'y a pas de violence policière, que la police n'est pas raciste, il n'y a pas de violence policière, la police n'est pas raciste, il n'y a pas de... Bon, voilà, hein, je ne vais pas vous faire tout le disque. après nous avoir répété ça sans s'arrêter, devant tous les faits, devant toutes les vidéos, devant toutes les enquêtes de journalistes ou du défenseur des droits qui démontraient le contraire de manière évidente, cette semaine, voilà que bon, quand même, finalement, il essaie un peu de dire autre chose. Alors, il essaye pas non plus du tout de dire le contraire, hein, qu'on soit clair.
Ah non, parce que pas plus tard que tout à l'heure, il a continué à dire ça à l'Assemblée.
C'est ça. Il continue donc bien à dire la police est pas raciste et pas violente. Mais il a plus ou moins dû être obligé de finir par admettre qu'il pouvait parfois y avoir presque des doutes, des vagues soupçons que certains flics, très individuellement, de manière tout à fait exceptionnelle, pouvaient peut-être dépasser très légèrement certaines limites. Il est par exemple revenu sur l'affaire du gamin de Bondy, là, Gabriel, celui qui s'est fait démonter, menotté par terre, et qui avait 14 ans. La semaine dernière, tout ce que Castaner avait à dire, c'était qu'il n'y avait pas de violence policière, que la police n'était pas... Bon, je ne vais pas vous la refaire. Et, mais il avait même ajouté, pour l'occasion, que la police, en France, protège du racisme. Bon, là, hier ou avant-hier, je ne sais plus, il semble un peu moins sûr de lui. « Je suis moi-même troublé par les témoignages que j'entends », a-t-il dit. La lumière sera faite et les déclarations des policiers sont en ce moment confrontées aux expertises médicales. Alors, on n'est quand même pas trop inquiet pour les flics, hein, parce que la lumière sera faite, sous-entendu, par l'IGPN, qui va prendre l'affaire en main. Et on connaît l'IGPN, qui va conclure, de toute façon, qu'il n'y a pas de lien entre les dents pétées et l'œil bousillé du gamin et les coups de pied qu'il a reçus dans la face. Et que d'ailleurs, personne ne lui a donné de coups de pied et que d'ailleurs, les policiers impliqués sont cul-de-jatte. Mais ça, finalement, c'est presque anecdotique dans les déclarations de Castaner. Non, le gros truc de cette semaine, c'est les déclarations de Castaner lundi au cours d'une conférence de presse où il avait été envoyé par son boss. Allez, va au carton, mon petit Castaner, moi, il faut que je reste jupitérien. Et où il a, d'une part, annoncé l'interdiction des prises d'étranglement pour interpeller un suspect et, d'autre part, prononcé cette phrase alors un peu étonnante où il annonçait qu'une suspension serait systématiquement envisagée pour chaque soupçon avéré d'acte ou de propos racistes. Alors, le coup de la prise d'étranglement, c'est que Adama Traoré, le cas un peu phare de violence raciste des flics en France, est mort comme George Floyd, étouffé. Du coup, annonce sur la prise d'étranglement. Bon, Adama, comme d'autres en France, hein, comme par exemple Hakim Hajimi ou d'autres, est mort plutôt d'une histoire de plaquage ventral que d'étranglement par derrière, pas grave. L'essentiel, c'est de faire une annonce, pas du tout de sauver de futures vies.
Sachant que l'annonce est aussi contrebalancée par le fait que, du coup, il a annoncé dans le reste de la semaine là. Qu'en fait, bon, ok, la technique de l'étranglement. Bon, bah voilà, les flics n'ont plus le droit d'étrangler les gens, mais par contre, maintenant, les flics ont le droit d'électrocuter les gens. Hein, et du coup, cette technique est remplacée, va donc être enseignée dans les écoles de police par une utilisation plus massive du taser. Hein, le taser, c'est ce pistolet à impulsion électrique américain qui a, par exemple, en 2007, été considéré par l'ONU, par le comité de l'ONU contre la torture, qui a pondu un rapport là-dessus, et qui a dit que c'était une forme de torture et que ce pistolet peut provoquer la mort. Voilà.
C'est ça, on est toujours content d'avoir Castaner comme ministre. Et puis, du coup, sa deuxième annonce phare de lundi, c'était l'annonce des suspensions pour les actes ou propos racistes. Alors là, les flics, ils s'en sont pas remis. Aujourd'hui, quand j'ai tapé violence policière dans l'internet pour avoir des news, je me suis retrouvé face à un flot, face à une quantité incroyable d'articles sur le désarroi des forces de l'ordre. Alors, leurs syndicats qui se répandent partout en déclaration, des journalistes. Vraiment, pour le coup, il y a un truc un peu classique de gauche et droite là-dedans qui se rejoue. C'est-à-dire des journalistes de droite, des médias de droite qui pleurent sur la profession, qui va se retrouver les mains liées, qui va plus rien oser faire de peur du dérapage, qui pourrait être pris pour raciste. Alors, bon, sans insister sur le fait que Castaner n'a pas du tout parlé de la suspension des 8000 plus 9000 flics hein, des deux groupes Facebook dévoilés par Street Press. On va juste seulement relire la phrase de Castaner. Et on va tout de suite pouvoir rassurer les flics, leurs syndicats et même les 40 à 50% d'entre ces flics qui votent Le Pen. Une suspension systématiquement envisagée pour chaque soupçon avéré d'actes et de propos racistes. Alors les flics ont paniqué parce qu'eux, ils ont lu le mot « soupçon ». Et blablabla, présomption d'innocence, elle est pour tout le monde sauf pour nous, les flics, ah, c'est difficile. Et blablabla, l'insécurité face à n'importe quelle allégation de n'importe qui. Après, si dès qu'on arrête quelqu'un, il va dire qu'on lui a dit ça le bougnoule, alors après, on va aller en prison. Mais, relisez bien, Castaner a dit « soupçon avéré ». Bon, ce qui, a priori, veut pas dire grand-chose, ou alors si on le prend dans un sens très strict, ça veut dire « c'est avéré qu'on soupçonne ». Donc, mais dans la pratique, ce que ça va finalement vouloir dire, c'est qu'il faut un soupçon confirmé officiellement, donc plus un soupçon, il faut un jugement, après enquête, et sans doute, bien sûr, enquête de l'IGPN. Autrement dit, clairement, il n'y aura pas de suspension de flic pour racisme. Peut-être un ou deux dans les semaines qui viennent pour calmer un tout petit peu la rue, mais en fait, peut-être même pas, parce que calmer les syndicats de flics, c'est important aussi. Et pour un gouvernement qui est et restera de toute façon impopulaire, on peut faire le pari qu'entre calmer les manifestants ou calmer les flics, le choix risque d'être vite fait. Alors mon article s'arrêtait là jusqu'à il y a une heure, mais dernière minute, Macron s'est exprimé ce matin.
Ah.
En Conseil des ministres. Bon, ça veut dire plus ou moins en privé, du coup c'est Sibeth Ndiaye qui a dû dire ce qu'il avait dit. Attention, ouvrez bien vos oreilles, c'est lourd de sens, c'est puissant, c'est original, et surtout ça dit précisément bien des choses sur ce qui va se passer désormais dans ce pays. Sibeth Ndiaye nous dit précisément ceci, deux points, ouvrez les guillemets, et je déconne pas. Emmanuel Macron a fustigé ce matin en Conseil des ministres le racisme et la discrimination, ce fléau qui est une trahison de l'universalisme républicain et une maladie qui touche toute la société. C'est bon, on peut arrêter les manifs, visiblement, on a été entendu au plus haut sommet de l'État.
Radio Canu 102.2.
La plus rebelle des radios. Info. Et on va faire un tour du côté du Mexique.
Je suis convaincue que nous avons vaincu cette pandémie, se réjouit mardi 2 juin le président mexicain Andrés Manuel López Obrador. On se demande sur quoi est basée cette conviction vu que le seuil symbolique des 10 000 morts de l'épidémie ont été recensés lundi 1er juin, premier jour du plan de déconfinement prévu par le gouvernement. Le Mexique est ainsi le deuxième pays d'Amérique latine le plus touché en nombre de décès après le Brésil. Les chiffres étaient hier respectivement de 14 000 morts pour le Mexique et 37 000 morts pour le Brésil. Le directeur général d'épidémiologie au secrétariat de la santé, José Luis Alomnia Zegara, affirme qu'il faut continuer à rester à la maison tant que le pic de l'épidémie n'est pas atteint et maintient la zone rouge au niveau de risque maximal sur tout le territoire. Pas à un paradoxe près, le vice-ministre de la Santé, Hugo López-Gatell, annonce lui que, je cite, « l'épidémie est loin d'être finie, le déconfinement ne signifie pas que tout le monde puisse sortir », pour se réjouir quelques jours plus tard du nombre décroissant d'hospitalisations. Fin mai, il semblait pourtant plus pessimiste et annonçait lors d'une audition devant les sénateurs du pays que l'épidémie pourrait causer jusqu'à 30 000 morts, en soulignant le caractère aggravant du diabète et de l'obésité largement répandus au sein de la population mexicaine. Les sombres prédictions des organismes statistiques se basant sur cette courbe qui ne s'aplatit pas évoquent 130 000 morts d'ici septembre. La nouvelle normalité voulue par le gouvernement est donc enclenchée depuis début juin par un président qui n'a eu de cesse, pendant les trois derniers mois, de se rendre de meeting en inauguration, enjoignant la population de fréquenter les restaurants pour soutenir l'économie. L'OMS a enjoint la semaine dernière l'Amérique latine à utiliser massivement les tests afin de mieux contrôler l'épidémie. Une recommandation ignorée par López-Gatell qui ne cache pas son scepticisme quant à l'efficacité des tests massifs. Le Mexique est donc l'un des pays qui teste le moins au monde, 2,3 tests pour 1000 habitants, au coude à coude avec le Pakistan et le Népal. Certes, contrairement au Brésil qui a cessé de publier les statistiques de l'épidémie, le Mexique continue à publier les données en termes d'hospitalisation, de morts, de nouveaux contaminés, mais ne semble en tirer aucune conclusion. Mais localement, les invitations au déconfinement ne sont pas forcément bien reçues. Dès le 18 mai, plus de 300 municipalités, apparemment exemptes de cas, ont été autorisées à se déconfiner avant la date officielle. La grande majorité d'entre elles a poursuivi son isolement, refusant d'ouvrir à l'aveugle. Sept États du nord du pays ont suivi le mouvement et refusé cette semaine de se plier à cette nouvelle normalité prêchée par le gouvernement. Alors pourquoi de telles décisions à des années-lumière de ce qu'est vraiment l'épidémie au Mexique ? Évidemment, la pression économique est forte. Celle provenant de l'intérieur du pays, avec des chiffres de crise alarmants, mais aussi en provenance des États-Unis, qui poussent pour un retour rapide du Mexique au travail. Sans leurs usines à bas coût du côté mexicain de la frontière, les multinationales états-uniennes se trouvent dans l'impossibilité de reprendre leur production. C'est cette même pression qui a conduit en avril certaines usines mexicaines à ne pas fermer alors que le coronavirus se répandait à la frontière, coûtant la vie à des dizaines de travailleurs payés moins de 10 dollars la journée. Vous pouvez retrouver un article détaillé sur le sujet sur Mediapart par Marie Hibon en date du 6 juin.
Et on va se faire une petite pause musicale.
We even have to say Black Lives Matter. I mean, if you go through history, nobody ever gave a fuck. I mean, you can kill black people in the street. Nobody goes to jail. Nobody goes to prison. But when I say Black Lives Matter and you say All Lives Matter, that's like if I was to say Gay Lives Matter and you say All Lives Matter. If I said Women's Lives Matter and you say All Lives Matter, you're diluting what I'm saying. You're diluting the issue. The issue isn't about everybody. It's about black lives at the moment. But the truth of the matter is, they don't really give a fuck about anybody if you break the shit all the way down to the low fucking dirty ass truth.
C'était No Lives Matter de Body Count. Que ça ne nous empêche pas de dire que l'État débloque 15 milliards d'euros pour soutenir l'aéronautique et pas un centime pour soutenir le train qui est le moyen de transport le moins polluant. Et l'État continue, nous dit le site Reporter, à faire pleuvoir des milliards pour le secteur aérien. Hier, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a annoncé un plan de soutien massif d'un montant de plus de 15 milliards d'euros pour la filière aéronautique. Ce plan est proportionné, justifie Bruno Le Maire, à la violence qu'a représenté la crise en ce début d'année et à son impact durable pour le trafic aérien. Ben ouais, pendant la crise, les deux grands trucs de l'aéronautique française, française et européenne, l'avionneur Airbus, qui est donc un truc européen, et le motoriste Safran, ont connu une chute brutale de leurs activités, de plus de 40% pour Airbus et 50% pour Safran. Selon le ministère de l'économie et des finances, ce sont 100 000 emplois qui seraient menacés dans les mois qui viennent si rien n'est fait. Mais si vous croyez que c'est juste du pognon pour empoisonner la planète, eh ben vous vous trompez lourdement. L'écologie est, comme toujours, au centre des préoccupations du gouvernement. Le gouvernement veut aussi profiter de la période pour, attention, moderniser la filière. Et Bruno Le Maire nous dit... L'industrie aéronautique française et européenne a un rôle central à jouer dans la décarbonation du trafic aérien mondial. L'objectif est de parvenir à un avion neutre en carbone en 2035 au lieu de 2050 qui était le plan précédent. Notamment grâce aux moteurs à très haut taux de dilution et au recours à l'hydrogène. Alors bizarrement, malgré toutes ces annonces d'écologie, tout ça, tout le monde n'est pas hyper fan. Et donc 250 organisations de la société civile, alors bon, c'est la société civile, mais ça reste l'époque Internet. Donc derrière le hashtag « Save people, not planes », sauver les gens, pas les avions, ces 250 organisations ont refusé un sauvetage inconditionnel de l'avion. Bon, personne ne leur a demandé leur avis. Hein. Mais en tout cas, elles ont affirmé qu'elles refusaient un sauvetage inconditionnel de la filière. Si la priorité doit pour ces organisations être donnée aux employés, les signataires appellent aussi à une transition vers une mobilité plus respectueuse du climat et alertent sur les illusions de l'avion vert. Pendant la matinée d'aujourd'hui, les réactions se sont succédées. Greenpeace dénonce un plan aux contreparties floues. Donc Bruno Le Maire, il commence par allonger le pognon et Greenpeace dit, sans contrainte légale, quel sera le contrôle démocratique et parlementaire de la définition et de la mise en œuvre des conditions affichées, donc blabla, l'avion vert, quelle redevabilité et quels moyens de sanction en cas de non-respect. Alors aussi qu'on soit clair, hein, sur les 15 milliards, a priori, il y en a 1 milliard et demi qui est consacré à la recherche et développement pour arriver à l'avion vert. Ça veut dire qu'il y a quand même 13 milliards et demi qui sont juste là pour faire voler le plus possible les vieux avions à kérosène. Aujourd'hui, si nous faisons les comptes, on arrive à 15 milliards pour le secteur aéronautique, dont 7 milliards pour Air France, 8 milliards d'euros pour soutenir l'automobile en plus des 15 milliards, et surtout donc zéro, que dalle, pot de balle pour la relance du ferroviaire. De son côté, le député Mathieu Orphelin regrette dans un communiqué que le plan n'intègre absolument pas la question de la modération du trafic resté à l'état de tabou. L'avion le moins polluant, trouve Mathieu Orphelin, c'est celui qui ne vole pas. Mais alors Mathieu Orphelin, ce député ex-macroniste, vaguement qui fait son beurre un peu sur l'écologie, il a tort. L'avion qui pollue le moins, c'est encore celui qu'on ne construit pas. 100 000 emplois sont en danger, pour la communauté humaine ou planétaire, il serait bien plus utile de payer tous ces gens à ne rien foutre que de les remettre au boulot.
Écoutez, à tout moment, ils peuvent venir te prendre pour les moments qui est à leur disposition.
Il est sans papier, c'est pour cela qu'on traite comme ça. Il est sans papier.
Comment l'État a tordu les lois pour s'acharner à expulser.
J'arrive pas à comprendre que je sois vraiment dans un déni de la personne.
Je vais me marier pour les papiers parce que je comprends pas les frontières. Si quelqu'un pouvait m'expliquer pourquoi on a dessiné des lignes par terre. C'est que les lois mises en place. C'est que les lois mises en place.
C'est ça.
Et alors, on va faire un tour du côté des frontières extérieures à l'Europe. Et comme d'hab, ce petit tour, eh bien, n'est pas très réjouissant. Vous allez le voir. Pour commencer, en mer Égée, mer reliant la Turquie et la Grèce, une embarcation avec en son bord des migrants tentant de passer de la Turquie vers la Grèce ont été menacés par un autre bateau avec à son bord plusieurs personnes masquées. Alors masqué en ces temps de pandémie, ça vaut le coup de le préciser, pas masqué d'un petit masque chirurgical pour se protéger du virus, juste cagoulé pour pas qu'il soit identifiable. Ces personnes vraisemblablement sont de la marine grecque, ont tenté d'accrocher sans y parvenir une corde sur le canot afin de les renvoyer dans les eaux territoriales turques. Ils ont ensuite fait de grosses vagues en tournant autour du bateau à proximité du canot au risque de le faire chavirer et provoquant à bord des mouvements de panique. Ils ont fini par prendre le moteur du bateau et à le couler dans l'eau avant de repartir, laissant les personnes à bord du canot sans aucun moyen d'avancer au milieu de la mer. Des images de cette intervention ont été envoyées à Alarm Phone. Alarm Phone, c'est une ONG, dont on parle pas mal ici, qui a un téléphone de secours, de veille, où les personnes qui sont en mer et en détresse, peuvent appeler pour qu'ils essayent de rediriger, en tout cas de solliciter des secours pour aller à leur rencontre. Et ils relayent également des témoignages comme celui-ci. Donc sur leur Twitter, on peut voir la vidéo de personnes qui sont à bord de ce bateau se faire grandement malmener. Du côté des gardes-côtes turcs, bon, s'ils ont fini par porter secours à l'embarcation, ils ont quand même également, pendant que les gardes-côtes grecs, eux, tentaient d'accrocher une corde sur le canot pour les amener du côté des eaux grecques, et ben en fait les gardes-côtes turcs, eux, essayaient d'accrocher. Non, vous voyez, c'est quand même un peu ah, complètement taré comme situation. Essayaient de faire de la même chose pour les mettre du côté grec. Tout ça, vous voyez, pour que les personnes dépendent de l'autre pays, quoi. Voilà, tout ça pour dire qu'en gros ils sont pas non plus, ils leur ont porté secours, mais vraiment vraiment, parce que là ils n'avaient pas d'autre choix. Si cette fois-ci une telle action a été filmée, plusieurs témoignages confirment que cette pratique est très courante en mer Égée et que les pratiques, que ce soit des gardes-côtes turcs ou des gardes-côtes grecs, sont assez courantes. Une personne congolaise avait témoigné mi-mai dernier. Il a dit, je cite, les Grecs ont pris notre bidon d'essence et ont fait d'énormes vagues pour que le canot retourne du côté turc. La situation est tellement tendue que même le directeur de Frontex est obligé de se la jouer choqué. C'est-à-dire, vous voyez, Frontex, c'est un peu l'agence qui gère les frontières extérieures de l'Europe. C'est un peu eux qui sont responsables de cette espèce d'immense Europe forteresse, qui fait que les gens prennent de plus en plus de gros risques pour réussir à venir en Europe. Et ben en fait, même lui s'est dit, bon, en fait, là, je le cite, cela devient de plus en plus évident, les violences contre les personnes qui se trouvent aux frontières de l'UE deviennent de plus en plus brutales. Voilà. Donc, ouais, c'est-à-dire que, je sais pas, ils ont peut-être fait une réunion avec Castaner où ils se disent, bon, alors peut-être faut qu'on... Voilà, voilà, bon, bref. Pour Alarm Phone et pour le coup, avec beaucoup moins d'hypocrisie, les responsables sont à chercher du côté des dirigeants européens. Ils déclarent, il n'est pas surprenant que de telles pratiques continuent. La Grèce est saluée pour ses actions violentes contre les migrants et par le président de la Commission européenne qui présente le pays comme, je cite, le bouclier de l'Europe, note l'organisation qui demande à ce que ces jeux cyniques cessent immédiatement. Du côté de la Tunisie cette fois-ci, une vingtaine de personnes sont mortes noyées au large de la Tunisie, près de l'archipel de Kerkena. Alors qu'elle tentait à bord d'un bateau de rejoindre l'Italie. Le bateau était parti avec 53 personnes à son bord. Pour l'heure, on ne sait toujours pas ce que sont devenues les autres personnes, ni ce qu'est devenu le canot, comparé à la même période de l'année dernière. Pour avoir une situation, pour un état des lieux, les départs ont augmenté de plus de 156% depuis les côtes tunisiennes. Toujours en Tunisie, cette fois-ci, des exilés retenus illégalement, dans un centre de rétention dans la banlieue de Tunis réclament leur liberté. Ils sont appuyés par plusieurs associations locales et ONG telles que Avocats sans frontières. Il s'agit du centre de El Ouardia, qui est géré par le ministère de l'Intérieur, mais présenté par les autorités tunisiennes comme un centre d'hébergement. Bon, alors la petite différence entre un centre d'hébergement et un centre de rétention, là elles sont, il y en a pas, hein, parce que les personnes qui sont enfermées ne peuvent pas sortir, par exemple, elles sont enfermées depuis des semaines, voire des mois, que le seul moyen pour elles de sortir, c'est d'accepter de retourner dans son pays d'origine, mais à condition, bien sûr, de payer son propre billet d'avion. Vous voyez, que les quelques personnes qui ont réussi à sortir malgré tout sans se faire expulser, bon, c'est des personnes qui ont réussi un peu à soudoyer des gardiens. Bien entendu, tout cela est fait hors de tout cadre légal, puisqu'en Tunisie il n'existe pas de centre de rétention. Du coup, il n'y a pas de, c'est pas possible de retenir quelqu'un comme en France, par exemple. Les personnes qui sont donc retenues dans ce centre ne se sont vues donc notifier aucun jugement validant la détention, et ils ne savent ni sur quel motif ni pour combien de temps ils sont là. Le tribunal administratif de Tunis a été saisi pour qu'il leur donne la fin de ces détentions arbitraires. Affaire à suivre. Et pour finir, on va aller faire un tour du côté de Mayotte, où cette fois-ci des milices citoyennes s'en prennent à des Comoriens arrivant sur l'île. Alors, depuis la crise du Covid, les tensions sont de plus en plus fortes sur l'île, et on le rappelle, Mayotte est le département le plus touché en France, avec je sais pas le nombre de cas, mais c'est vrai, c'était vraiment c'est vraiment la folie, et où en plus je pense que c'est un des plus gros déserts médicaux français. Voilà, et où en tout cas même les conséquences, pas seulement les conséquences sanitaires au sens hospitalier du terme, mais également les pour au niveau de la thune, quoi. C'est vraiment la population qui était le plus brutalement touchée par l'appauvrissement. Là, des habitants se sont ligués afin de nuire aux exilés présents sur l'île. Et alors, ça se passe dans le sud, mais en fait dans le nord aussi. Vous allez voir, ça a commencé dans le sud de l'île, à Canibé. Des habitants ont fait barrage à une ambulance afin de l'empêcher de porter secours à un homme comorien victime d'un traumatisme crânien suite à un accident de la route. Une autre entrave s'est produite mardi, il y a quelques semaines, dans le village de Mtsahara, dans le nord de l'île, lorsqu'une cinquantaine d'habitants ont empêché l'intervention des pompiers venus secourir une autre personne blessée et déposée par un Kwasa Kwasa. Alors les Kwasa Kwasa, c'est le nom des bateaux qui transportent des personnes venant des Comores pour arriver à Mayotte. Voilà, donc les Comores ne sont pas un département français. Mayotte est un département français. Avant tout ça, faisait partie de la même colonie.
Les Comores, c'est un archipel de quatre îles, parmi lesquelles il y a l'île de Mayotte, qui est l'île française.
C'est ça. Et du coup, qui était tout cet archipel avant faisait partie de la même colonie. L'État français s'est sorti des autres îles, mais a gardé Mayotte, ce qui crée un énorme déséquilibre entre plusieurs îles. Et donc, même si Mayotte c'est vraiment un département ultra pauvre, il n'empêche que pour les autres îles des Comores, c'est quand même une porte d'accès et un endroit où c'est encore un peu moins la merde que chez eux. Donc voilà. Et donc, ce qui se passe, c'est que voilà, les gens arrivent dans ces...
Mais les Mahorais, les habitants de Mayotte, sont hyper, ultra racistes contre les... Enfin, bon, pas chacun, hein, mais il y a
en
vraiment...
En tout cas, voilà, au niveau de l'ambiance, ouais, c'est ça. C'est que là, les tensions sont vraiment très, très fortes. Mais il y a quand même toujours cette très forte tension. Et on en a parlé beaucoup. Mayotte, c'est aussi un territoire français où il y a beaucoup d'exceptions au niveau judiciaire. Par exemple, rien qu'au niveau de la rétention, les flics peuvent expulser sans jugement sur les autres îles. Enfin bref, voilà, c'est un peu le bordel là-bas. Les dernières semaines, des manifestations contre, je cite, l'insécurité et la délinquance, pardon, ont été organisées. Par exemple, il y a aussi un autre rassemblement qui a été organisé devant le tribunal judiciaire pour demander la libération de trois hommes ayant reconnu avoir séquestré et tabassé par vengeance un jeune homme d'origine comorienne. Pour l'heure, la victime n'a toujours pas été retrouvée, tandis que les trois kidnappeurs présumés ont été remis en liberté. S'ajoute à ça la maison de la famille de la victime, qui a été également saccagée par des habitants en soutien aux accusés. Voilà pour l'ambiance là-bas, sachant que l'État français laisse bien pourrir la situation, puisque la préfecture de Mayotte est fermée quand même depuis 2018, un peu empêchant. Alors bien sûr, personne n'attend des miracles de la préfecture, mais vous voyez, il y a des gens qui viennent pour demander des papiers, éventuellement pouvoir aussi venir en métropole si ces papiers sont validés ou pas. Et ben non, en fait, juste le fait qu'il n'y ait pas de préfecture sur place, ça fait que les démarches sont complètement embouteillées et la situation est explosive comme on le voit. On ne pouvait pas finir ces nouvelles sans parler de Malte, avec 400 migrants qui sont toujours bloqués sur des bateaux au large de Malte. Alors, c'est pas moins de 4 bateaux hein, sur lesquels ils sont répartis. La Commission européenne exhorte les pays à faire preuve de solidarité et surtout doivent respecter leurs obligations en droit européen et international. Paris, tiens, je les cite... à préciser qu'ils veulent bien un peu accepter des gens à condition que d'autres pays s'engagent également à relocaliser des migrants. Donc, vous voyez, c'est un peu cet éternel jeu de qui est-ce qui en prendra combien, machin. Voilà, en tout cas, ça fait bientôt un mois que les personnes sont bloquées sur ces quatre bateaux et sur ces quatre bateaux affrétés par Malte qui leur refusent leur débarquement.
Il faut que ça se sache.
Et puis, avant de vous quitter, on va parler de ce décès de Pierre Nkurunziza. Pierre Nkurunziza, dont on vous a pas mal parlé à une époque ici, dans ces mêmes Canuts Info du mercredi, c'était en 2015, au moment d'une très fameuse campagne présidentielle au Burundi. Pierre Nkurunziza était donc jusqu'à sa mort il y a quelques jours, le président burundais. Et donc, j'ai choisi plutôt de vous lire un article de ce journal dont je me sers un peu régulièrement pour les infos là, qui s'appelle l'Observateur Palga, un journal du Burkina. Et je vais vous le lire puis avec des mini-commentaires à des moments. Et donc l'article s'appelle « Décès inopiné », entre guillemets, de Nkurunziza, une mort qui émancipe Ndayishimiye. C'est un hommage presque à titre posthume qui lui avait été rendu le 6 juin dernier par son parti, le CNDD-FDD, et le président nouvellement élu, Évariste Ndayishimiye. Un véritable panégyrique à la gloire de celui dont on était loin de se douter que, 3 jours plus tard, il passerait de vie à trépas de façon inopinée. Selon le communiqué officiel qui a annoncé hier le décès du président Pierre Nkurunziza suite à un arrêt cardiaque. Était-il lui aussi atteint du Covid-19, puisque, alors ça c'est une possibilité pour son fameux décès inopiné, puisque sa femme, Denise Boukoumi, est en soins intensifs depuis la semaine dernière dans un hôpital kényan pour contamination au coronavirus. Une chose est sûre, cette mort inopinée, subite, brutale, qualifiez-la comme vous voulez, intrigue et interroge à la fois. Celui qui disparaît à 55 ans, donc Nkurunziza, a dirigé le Burundi d'une main de fer pendant une quinzaine d'années. En effet, il est arrivé au sommet de l'État à la faveur de la présidentielle de 2005, consécutive aux accords d'Arusha. Alors le Burundi, c'est un pays où il y a eu une sorte de guerre civile entre Hutu et Tutsi, comme ça a été les tensions qui existaient au Rwanda. Pardon, je cherche mes mots parce qu'au Rwanda, ça a bel et bien pas été une guerre civile, ça a bel et bien été un génocide. Et dire guerre civile, c'est toujours se trouver du côté des négationnistes. Mais au Burundi, par contre, ça a vraiment été une guerre avec des morts des deux côtés. Je veux pas dire équilibré, mais...
C'était moche, mais ça avait pas la même ampleur qu'au Rwanda.
C'est ça. Et du coup, il y a eu une guerre pendant longtemps, et c'est suite à cette guerre, il y a eu ces fameux accords d'Arusha, et suite à ça, le président de Nkurunziza a été élu, et donc la constitution laissait un président en place pour un mandat et éventuellement 2 mandats, mais pas un troisième, et en plus la constitution à ce moment-là précisait qu'un président Tutsi, enfin qui pouvait y avoir deux mandats pour une présidence Tutsi, puis 2 mandats pour une présidence Hutu, puis à nouveau 2 Tutsi, blablabla. Bon, lui a trouvé au bout de 2 mandats qu'il fallait surtout changer la constitution. Et alors, Nkurunziza, cet ancien rebelle, s'est mué, nous dit l'article, en véritable dictateur avec l'aide de ses milices Imbonerakure. Officiellement, c'est l'organisation de jeunesse de son parti. Dans la pratique, c'était un groupe qui pouvait, par exemple, aller voir des opposants et puis leur expliquer la vie, ou tout bêtement aller voir des commerçants et exiger une contribution aux frais électoraux dans les meilleures méthodes mafieuses sur le ton d'une proposition que les commerçants ne pouvaient pas refuser. C'était vraiment ça l'ambiance. Opposant politique, journaliste, activiste des droits de l'homme, était ainsi systématiquement traqué, matraqué ou purement et simplement liquidé s'il n'était pas contraint à l'exil. En 2015, alors qu'il devait s'éclipser après deux mandats, donc c'est ce que je viens de dire sur la Constitution, il viola toutes les règles qui pouvaient l'être pour s'offrir une prolongation indue. Et donc voilà, ça le menait jusqu'en 2020, c'est-à-dire maintenant. Il n'aura pas eu le temps, nous dit l'article, de jouer ce bonus jusqu'à la fin, puisqu'il devait officiellement passer la main le 20 août prochain à son successeur, le général Évariste Ndayishimiye. L'héritier qu'il s'était choisi lui-même, et qui vient donc de remporter la présidentielle contestée, nous dit l'article, c'est-à-dire que encore une fois, là au Burundi, personne ne croit du tout aux élections, mais donc Ndayishimiye vient de remporter la présidentielle, c'était le 20 mai dernier. Mais dans ce malheur que va nous présenter Ndayishimiye, maintenant, puisqu'il est extrêmement triste que son boss soit mort, on se demande quand même, en tout cas la personne qui écrit l'article dans l'Observateur Palga se demande si l'illustre orphelin éploré, donc le nouveau président, en son fort intérieur, est si malheureux que ça, puisque pour lui, la disparition du mentor tombe finalement à pic, si on ose dire, dans la mesure où elle l'émancipe d'un coup de la tutelle pesante qui se profilait à l'horizon. Car si le défunt avait choisi volontairement, cette fois-ci, de céder sa place, on voyait mal comment il pouvait ne pas compter tirer les ficelles de la marionnette qu'il venait de mettre sur scène et sur le trône. Un peu à l'image, nous dit toujours l'article, de Joseph Kabila en RDC voisine. Joseph Kabila, pareil, qui est arrivé au bout des mandats que lui permettait la Constitution. Il y a quelqu'un qui est nouvellement élu en RDC, je ne me rappelle même plus son nom, tiens. Toujours est-il que c'est vraisemblablement pas, lui, le personnage le plus important de l'État. Voilà donc, nous dit l'article, le pantin libéré d'une emprise sans avoir rien fait, du moins on le suppose, et qui devrait donc régner sans avoir à rendre de compte à un maître. La disparition inopinée, entre guillemets, du guide suprême éternel, entre guillemets, ne sonne-t-elle pas comme une surprise providentielle ? Et donc je laisse toute la responsabilité de ces sous-entendus à l'éditorialiste Alain Saint-Robespierre de l'Observateur Palga. Pour ma part, je me laisse juste toucher par une petite envie que finalement, malgré tout, l'au-delà existe et que Pierre Nkurunziza y rencontre les quelques 80 victimes de la répression des manifestations de 2015.
Et il est 19h55 et ce Canut Tout Info touche à sa fin. Le temps pour nous de vous dire qu'a priori on vous retrouve pas la semaine prochaine.
Ah ouais, c'est vrai.
Mais la semaine encore d'après. Et voilà, en tout cas, merci de nous avoir écoutés. On vous laisse avec quelques petites minutes de bande continue. Et vous allez retrouver avec plaisir l'émission
Idée Noire. L'émission de oh merde, comment
L-U-C-L.
S'appelle maintenant L-U-C-L.
Eh bien, merci de nous avoir écoutés et bonne continuation à vous.
Radio Canu.
C'était le Canu Info, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info de mercredi. C'était le Canu Info, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info de mercredi.
Retrouvez le Canu Info tous les jours de la semaine de 19h à 20h sur le 102.2. Et en réécoute et en podcast sur le site de la radio www.radiocanu.org.
Plus rebelle des radios.